La science CQFD, Natacha Triou.
C'est l'un des plus grands ossuaires du monde et l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale, les catacombes de Paris. Que sait-on des propriétaires de ces millions d'os ? À vrai dire, pas grand-chose. Chaque année, près de 600 000 visiteurs se rendent dans ce labyrinthe souterrain de crânes, de fémurs et de tibias. À partir du XVIIIe siècle, une partie du réseau d'anciennes carrières a permis de désengorger les cimetières et les fosses communes prêtes à craquer. Un vaste programme de recherche vient d'être lancé, car aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y a jamais eu d'études scientifiques avant celle-ci. On ne sait pas combien il y a de corps, ni d'où ils viennent, alors comment faire parler les morts et qu'ont-ils à nous dire ? Catacombes, la recherche se jette à l'os. Philippe Charlier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, archéologue et anthropologue, directeur du laboratoire anthropologique, archéologie, biologie de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et vous êtes à la tête de cette vaste étude scientifique. Isabelle Knafou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administratrice des catacombes de Paris, et nous sommes en ligne avec Guillaume Mazot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution, maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du conseil scientifique des catacombes. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur X, ex-Twitter, vous y trouverez notre live tweet quotidien, mais aussi sur Blue Sky, à vos claviers, c'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors quels sont les objectifs de l'actuel programme de recherche et de rénovation des catacombes ? Comment se montent de tels chantiers d'études ? Et quels sont les avantages de pouvoir travailler sur ces ossements ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. En 1973, on descend à 20 mètres sous terre.
D'abord les catacombes, spectacle pittoresque s'il en est, lorsque, circulant dans les travées de l'ossuaire, les galeries noyées dans la pénombre, apparaissent soudain peuplées de milliers de regards qui semblent vous observer depuis la nuit des temps. Des personnages célèbres y reposent, de leur dernier sommeil, on cite Lavoisier, Madame de Pompadour, Danton et la du Barry, et bien d'autres encore. Ils reçurent au cours des siècles la visite de personnages non moins illustres, et c'est ainsi qu'avant vous, le comte d'Artois, Napoléon III, Bismarck et François Ier, empereur d'Autriche, y effectuèrent un rapide pèlerinage, empruntant les 90 marches qui, sous la place d'Enfer Rochereau, aboutit à la porte taillée dans le roc au-dessus de laquelle sont gravés les vers de Delille. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Comment les ossements des morts provenant de dizaines de cimetières parisiens ont-ils abouti ici ?
Voilà, le journal de France Inter en 1973. Isabelle Knafou, comment ces ossements ont-ils fini là ? D'où viennent ces milliers de regards ?
Oui, c'est une histoire assez incroyable. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça se passe à peu près à la fin du XVIIIe siècle et c'est la conjonction de deux événements. Le premier, c'est qu'on arrête de creuser sous Paris, enfin, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a creusé pendant plusieurs siècles pour extraire la pierre calcaire, qu'on a rebouché tout cela de manière plus ou moins, en oubliant un peu cette pratique et qu'on a continué à construire Paris tranquillement sur d'immenses cavités. Jusqu'au jour où, à la fin du XVIIIe siècle, il y a des accidents qui se passent dans le sud de Paris et certains immeubles et chaussées s'effondrent littéralement. Et il est temps, évidemment, de savoir ce qui se passe sous terre, ces 20 mètres sous terre que vous avez mentionnés, et de consolider tout ça. Et dans le même temps, au centre de Paris, un autre événement majeur qui se passe, c'est que tout simplement le plus grand cimetière de Paris, qui s'appelle le cimetière des Saints Innocents, qui est vraiment situé au niveau des halles actuelles, craque de toutes parts. Sous le nombre trop volumineux de défunts qui sont inhumés. Et là encore, les défunts se répandent dans des caves. Ce sont des scènes absolument désolantes, à coups de gaz de putréfaction. À l'époque, évidemment, commencent à arriver les thèses hygiénistes. Et les riverains sont à la fois assez déconcertés par ces ossements qui se répandent dans leurs caves. Et puis surtout, fort ennuyés à l'idée de pouvoir attraper des maladies. Donc là encore, les pouvoirs publics décident d'arrêter ces inhumations et de procéder au transfert de ces ossements. Mais où va-t-on les mettre, ces ossements ? Et ben voilà, on a l'idée de les mettre dans ces anciennes cavités, dans ces anciennes carrières de pierre à la lisière de Paris.
Guillaume Mazot, en effet, les catacombes s'appellent catacombes depuis 1786. Et ça, c'est une référence aux catacombes de Rome qui fascinent d'ailleurs depuis leur découverte.
Oui, exactement.
Il faut pas oublier l'ambiance quand même, évidemment très religieuse de ces moments-là. Et si on fait référence aux catacombes, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de rachat, puisqu'évidemment, en 1786, transférer ces ossements, c'est quand même des biens qui sont particuliers, qui sont profondément attachés à la foi, et qu'on respecte particulièrement, eh bien, c'est pas complètement évident. Donc, on pourrait dire qu'on resacralise en quelque sorte ces biens-là, ces ossements, ces restes humains, en appelant, en faisant la référence aux catacombes. D'ailleurs, je le dis parce que c'est quand même important, en général, on confond souvent les catacombes et les carrières de Paris, hein, mais les catacombes, c'est précisément ce qu'on appelle l'ossuaire, en fait. C'est vraiment l'endroit où... Voilà. Et je voudrais aussi parler du double contexte qu'il y a à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi ça craque ? Ça craque parce que Paris, comme beaucoup de villes d'Europe, à la fin du XVIIIe siècle, est en expansion permanente. Il y a une croissance démographique, une croissance urbaine très forte, et à force de construire sur du creux, évidemment, ça finit par craquer en 1774, par exemple. Hein, c'est un trou de 25 mètres de profondeur hein, sur la route d'Orléans. L'actuelle avenue d'Enfer Rochereau, c'est des accidents urbains gigantesques, en fait. Faut imaginer ça. Et la deuxième chose qui rend possible quand même cette opération, même si elle est compliquée, même si on transfère les ossements la nuit, en présence de prêtres, on fait des processions, et la nuit pour pas choquer, justement, hein, les populations, c'est aussi qu'on est dans un contexte de prise de distance avec les prescriptions religieuses, en particulier en ce qui concerne les rites mortuaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus en Dieu, pas du tout. Ce qu'on a appelé la déchristianisation, c'est plutôt une sorte de... Voilà, on met ces choses-là à distance. Et dans toutes les attitudes, on peut le repérer, des historiens l'ont repéré, Michel Vauvel ou Philippe Ariès. Donc ça, c'est peut-être que cette opération est possible, justement parce que mettre les morts un peu loin de la vue, on vit moins avec eux, moins autour d'eux, ils sont moins parmi nous, c'est possible à cause de ce changement de mentalité.
Ces morts loin des vivants, Philippe Charlier, le nombre d'individus qui se trouvent enterrés là, on n'en sait rien. Il y a des nombres, d'ailleurs, selon les sources, ça va du double au triple.
Du double au triple, voire au x10. Le chiffre habituellement utilisé est de 5 à 6 millions en général, tout individu confondu. Et attention, les squelettes ne sont pas complets. Et puis, ils sont également mélangés, énormément mélangés. C'est un immense puzzle, probablement le plus grand puzzle du monde, avec des pièces non pas en carton peint, mais avec des ossements humains. D'autres chiffres existent, plus moindres, on va dire, si je peux dire, 2-3 millions. Et puis, des chiffres plus importants, allant jusqu'à 10 millions. En fait, c'est tout l'intérêt de réaliser cette étude scientifique pour faire pas mal de sondages dans des hagues, c'est-à-dire ces empilements d'ossements très bien organisés, qui sont en deux parties. Une hague antérieure, qui est celle qu'on voit quand on chemine dans les catacombes, généralement assez esthétique, très, très, très symétrique, avec parfois des symboles, des crânes, des crucifix, des calvaires. Et puis, une partie qui est postérieure, qui, pour le coup, peut s'étendre très, très profondément, jusqu'à 14 mètres de profondeur, qui peut être un mélange d'ossements, de terre, de rebuts de taille, de carrières également. Donc on ignore exactement la profondeur exacte et la hauteur exacte de ces formations postérieures. Et c'est ça qui fait toute l'ambiguïté de ce chiffre. Notre travail, notamment, a pour but premier, mais pas exclusif, d'essayer d'approcher au plus près ce qu'on appelle le nombre minimum d'individus. Combien sont ces Parisiens et Franciliens, et également autres individus qui sont morts à Paris, mais qui n'étaient pas forcément originaires de Paris, et qui ont fini dans le sous-sol.
Et on reviendra évidemment sur vos méthodes et vos outils, Philippe Charlier, pour mener à bien ces études. Mais voilà, ce premier point de départ, c'était notre surprise quand on a appris qu'il n'y avait jamais eu d'études scientifiques, Isabelle Knafou, enfin, excepté une étude en botanique sur la flore des milieux sans lumière, une autre sur les crustacés... une autre sur des crustacés cavernicoles. Pas d'études scientifiques sur les catacombes. Pourquoi ? Comment ça s'explique, ça ?
Moi, je ne suis pas du tout capable de l'expliquer. Je ne fais que constater. Et peut-être que ce qui est le plus étonnant, parce qu'effectivement, il y a eu quelques études très ponctuelles et très circonscrites. Mais moi, ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'il n'y ait pas de travail d'historien de recherche sur ce site. Et ça, très franchement, je ne me l'explique pas. Et aujourd'hui encore, le savoir historique est l'apanage de ce qu'on appelle les cataphiles, c'est-à-dire ces passionnés des mondes souterrains, qui sont parfois des amateurs éclairés tout à fait bien éclairé, c'est-à-dire qu'ils produisent un contenu qui est très intéressant. Hein, ils sont souvent des auteurs d'ouvrages plutôt reconnus, mais ça n'a rien à voir avec de la recherche. Donc, c'est ça, évidemment, ce à quoi on essaye de s'employer aujourd'hui, c'est de donner envie à des chercheurs, quelle que soit leur discipline d'ailleurs, de mettre à disposition ce site exceptionnel pour qu'ils puissent mener leurs recherches dans les différents domaines, mais y compris d'ailleurs la littérature, par exemple, puisque les catacombes, c'est certes un ensemble d'ossements, mais c'est aussi un parcours littéraire autour de la littérature funéraire au XIXe siècle tout à fait étonnant. Et donc, par exemple, on pourrait imaginer aussi que des chercheurs en littérature puissent venir regarder ce site, compiler l'ensemble des citations poétiques, philosophiques et littéraires qu'il compose et puissent nous raconter des choses à propos du 19e siècle, par exemple.
Un site qui n'a jamais été pris en charge par les universitaires. Guillaume Mazot, vous aussi, comment vous l'expliquez ?
Alors, c'est difficile à expliquer. Il y a un livre scientifique vraiment sérieux sur les catacombes qui a été produit par une historienne américaine et qui date d'il y a quelques années. Donc, c'est assez fou, en fait, hein, qu'un site si visité, on a l'impression que tout le monde le connaît et qui n'a qu'à pas produit de savoir. Une des explications possibles, c'est, et puis on est au bon moment pour en parler, c'est le rapport compliqué, refoulé, qu'on a construit avec la mort, avec nos morts. Justement depuis, en gros, la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une réalité de la vie, si je peux dire, qu'on a enfouie en quelque sorte, qu'on a enfouie sous terre, et puis qu'on a enfouie aussi en termes de retard de connaissance. Voilà. Mm-hmm. Je crois qu'on est, il y a plusieurs signes qui peuvent montrer que c'est en train de changer, et je crois que cette étude fait partie de ce retournement-là.
Philippe Charlier.
Et pour rebondir sur le plan scientifique, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il n'y avait jamais eu d'études, c'est surtout l'ampleur de la tâche. Parce que autant les archives sont peut-être plus faciles, entre guillemets, et c'est un travail difficile bien entendu, mais sont peut-être plus difficiles à manier que peut-être 10 millions d'individus. Il n'y a peut-être pas 10 millions d'archives, c'est ce que je veux dire, mais pourtant, il faut faire de l'archéologie pour trouver certaines archives. Mais là, les 10 millions d'individus, en plus mélangés les uns à côté des autres, je pense, particulièrement difficile. Il y avait déjà eu auparavant un petit ossuaire d'ossements pathologiques, ce qu'on appelle la galerie de pathologie, qui malheureusement a été détruite un jour lors d'un effondrement et qui a disparu. Il y avait une autre petite galerie de minéralogie aussi, dont certains éléments ont pu être préservés. Donc c'était les seuls, c'était des mini-musées, si on peut dire, à l'échelle d'une salle, mais ça n'avait rien de scientifique stricto sensu.
C'était pédagogique.
C'était pédagogique.
Oui, Isabelle Knafou aussi, par rapport aux archives justement, alors aux archives en papier, les archives ont aussi brûlé sous la Commune en 1870, on a assez peu de matière textuelle. On peut
les archives notamment de l'Inspection Générale des Carrières, qui était l'administration créée donc à la fin du XVIIIe siècle, au moment des effondrements liés aux carrières, et qui a géré le site jusque dans les années 1980. Donc effectivement, entre les incendies, les déménagements et tout y quanti, de nombreuses archives ont été perdues, et donc on travaille un peu sans filet, on va dire, aujourd'hui. Et de fait, c'est avec un tournant de fait qui a été donné au moment où le site est passé, donc de l'Inspection Générale des Carrières à une gestion des affaires culturelles de la ville. Hein, c'était toujours une institution gérée par la ville de Paris, mais là qui devenait un lieu patrimonial. Et donc à partir du moment où ça devient un lieu patrimonial, on prend bien évidemment des précautions un peu différentes, simplement de savoir si le ciel va nous tomber sur la tête ou si un mur d'ossement va s'effondrer. Là, on est dans une autre logique, et en tout cas c'est la nôtre aujourd'hui, qui est celle non seulement de faire en sorte que ce lieu soit préservé et qu'il puisse être transmis aux générations futures, donc de travailler sur les conditions de conservation, et on y reviendra tout à l'heure, mais aussi qu'on travaille aussi en documentant tout ce qu'on fait aujourd'hui. Tout ça pour pouvoir le transmettre là aussi à ceux qui nous succéderont dans 20, 50 ou 100 ans, qui sachent comment on faisait un mur d'ossement en 2024, par exemple.
Alors comment justement restaurer ce site et comment monter un mur avec ces ossements ? On vous raconte tout, restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En En direct sur France Culture, avec Guillaume Mazot, Philippe Charlier, Isabelle Gnafou, nous parlons de l'ossuaire municipal de Paris, les catacombes, cet immense cimetière souterrain. On vient de voir que c'est un site qui n'a jamais été pris en charge par les universitaires et qui fait enfin l'objet de recherches approfondies. Isabelle Gnafou, on n'a pas encore dit aussi ce spectacle pittoresque. Peut-être qu'on peut raconter ce qu'on vit en tant que visiteur pour nos auditrices et auditeurs qui ne s'y sont jamais rendus. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça sent?
Tous les sens sont mis en jeu.
Oui, tout à fait. Moi, c'est une promenade hors du temps et hors du commun. Et je pense que le public ne s'y trompe pas, y compris ceux qui arrivent peut-être parfois en ricanant un peu. D'ailleurs, comme on faisait au début du 19e siècle, quand le site a été ouvert en 1809, les gens venaient, alors au tout début, certes pour se recueillir sur les ossements, puis très vite, ça les a quand même un peu dissuadés de descendre de 20 mètres pour faire tout ça. Donc c'est devenu, de fait, une attraction, et on venait pour se faire un peu peur. Certains venaient aussi pour le parcours littéraire que j'évoquais tout à l'heure, mais on venait pour se faire un peu peur. Mais force est de constater qu'au fur et à mesure de la promenade, on rit de moins en moins, et qu'on est, en fait, on vit un moment extrêmement fort face à soi-même et face à ces eaux qui représentent à la fois un morceau d'histoire de Paris, c'est une évidence, on évolue au milieu de millions de personnes, comme on disait tout à l'heure dans le reportage, qui vous observent. Donc c'est un moment, et on est à une telle proximité des ossements, c'est tout à fait étonnant. Je pense que le public ne s'imagine pas cette proximité et ce sentiment très fort qui se dégage. Et en même temps, on est face à soi-même, face à sa propre mort, face à la mort, évidemment, de ses êtres chers. Et là, c'est la partie un peu moins amusante peut-être, mais qui permet de cette introspection fabuleuse.
Philippe Charlier.
Oui, c'est vraiment un cabinet de réflexion, c'est un lieu de méditation philosophique extrêmement important, je trouve. C'est très calme, c'est silencieux, on entend juste le ploc-ploc. Et quand on descend de l'énervement parisien ambiant permanent et qu'on arrive 20 mètres sous terre, on respire. C'est comme quand on écoute France Culture.
Merci, l'effet catacombe de France Culture.
Oui, il y a une sérénité absolue qui se dégage de cet endroit. Ouais.
Un programme de rénovation, restauration a donc été lancé en 2023. Il y a d'un côté ce programme de restauration pour entretenir le site, de l'autre, second volet, plutôt moderniser les installations, la scénographie. La restauration des catacombes, c'était impératif parce qu'elles étaient menacées par l'effondrement des ossuaires.
En fait, il y a toujours eu des démontages, des remontages de murs d'ossements, donc ce qu'on appelait les hagues, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, pour entretenir et pour éviter, en gros, qu'elles ne s'effondrent. On intervient pour essayer d'améliorer, évidemment, le côté esthétique, mais surtout d'améliorer la conservation, parce qu'un ossement qui est bien rangé est un ossement heureux et qui va donc pouvoir être transmis de génération en génération, à condition, justement, qu'on le préserve de l'eau, qui est vraiment la chose la plus néfaste. Or, on est dans des cavités où il pleut régulièrement, où il y a des remontées d'humidité par le sol, qui sont évidemment génératrices de gros désordres, mais aussi les problèmes de CO2, d'où la nécessité aussi de pouvoir revoir l'aération du lieu, et puis toutes les bactéries que le public nombreux apporte. Donc voilà, donc il faut arriver à faire cet équilibre entre, on va dire, la bonne conservation de ces ossements, rectifier tout ce qui peut l'être, notamment la lumière, l'aération, et la protection de l'humidité. Donc ça, c'est ça l'enjeu de ce programme de travaux. Et puis d'un autre côté, de pouvoir continuer évidemment à accueillir du public dans les bonnes conditions.
Petite anatomie de ces murs, de ces hagues, elles sont composées de deux parties.
Oui, tout à fait. Elles sont composées de deux parties. La première partie, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, avec ses murs de dos long, donc les fémurs et les tibias, décorés ça et là de crânes. Et puis le reste du corps qu'on a mis derrière. En fait, normalement, on n'est même pas censé le voir. Mais c'est aussi une manière de conserver l'ensemble de ces fragments du corps qui, je le rappelle, pourquoi ils sont en fragments, c'est qu'ils ont fait une chute de 20 mètres quand même, les ossements. Quand ils ont été transférés, on les a jetés depuis les anciens puits qui servaient à remonter de la pierre calcaire, et là, on les a fait dégringoler littéralement, et ils sont venus s'effondrer au sol, évidemment causant des dommages. Donc tous ces ossements-là, ils sont conservés quand même, mais simplement ils sont placés à l'arrière des murs, de manière à ce qu'on ne les voit pas.
Philippe Charlier.
Ce qui veut bien dire que les informations qu'on va obtenir sont déjà biaisées. les ossements se sont abîmés dans les cimetières d'origine. On a quand même à peu près 1000 ans ou 900 ans d'occupation de ces cimetières pour les plus anciens, qui ont été curés, entre guillemets, à partir de 1786. Ensuite, il y a le transport jusqu'à la barrière d'enfer, c'est-à-dire le dessus des catacombes. Ensuite, la projection dans les galeries. Ensuite, ils sont restés là pendant une dizaine d'années à peu près. Ensuite, ils ont été récupérés dans le fond des catacombes, disposés dans les murs. Puis ensuite, d'un mur à l'autre, ils ont servi à des restaurations. Ce qui explique qu'on a ces six ou sept étapes successives de dégradation des ossements. C'est pour ça qu'on a très très peu d'enfants, ou d'immatures, comme on les appelle en anthropologie. On a quasiment que des adultes, et encore, on a les ossements adultes les plus résistants. Donc il y a un petit biais, pour ne pas dire un gros biais de sélection, qu'on essaye de corriger en faisant le maximum d'examens, du maximum de hagues sur divers endroits, etc.
Oui, Guillaume Mazot, et d'ailleurs c'est ce que vous appelez Isabelle Knafou, la grande transhumance, c'est que de 1785 à 1787, plus de 2 millions de morts quand même sont évacués du cimetière.
Des saints innocents.
Des saints innocents, oui, qui sont à côté de la halle.
le premier.
Oui, Guillaume Mazot.
Oui, parce que le transfert, il continuera jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait. Hein. Il faut imaginer que là, il y a un certain nombre de cimetières qui se font vider de Paris pour des raisons sanitaires, même pendant la Révolution française, pendant tout le 19e siècle, donc ça va durer longtemps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, on tombe là, quand même, dans une sorte de scénographie reconstituée à de multiples reprises. Hein. Ça c'est certain, mais qui vraiment nous fait quand même plonger dans l'imaginaire, dans un imaginaire au fond, hein, celui du 19e siècle, et de ce romantisme, de ce poids de la mort, de la mémoire de la Révolution française, et donc de la manière dont on interpelle les passants, puisqu'on aurait très bien pu les laisser en tas. Hein. Il y a tout un voilà une muséification, une patrimonialisation de ces restes-là.
Il y a la mode victorienne qui vient se greffer dessus.
Voilà. En plus, ouais, complètement, qui nous parle parce qu'on a beaucoup changé quand même depuis cette époque-là. Donc c'est aussi un lieu qui nous pousse à réfléchir, qui est très intéressant d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue scientifique, puis aussi d'un point de vue historique, parce qu'on change de monde.
Oui. Le document qui nous sert de base pour comprendre le lieu, c'est le livre écrit par Éricard de Thury, qui est l'inspecteur général des carrières, qui a aménagé les catacombes en 1809. Il écrit un livre en 1815 où il raconte finalement cette aventure. Et on voit bien, à travers cet écrit, sa volonté de créer un monument funéraire. Quelque chose de grandiose, qui va rendre hommage finalement à ses défunts, cette volonté. Alors il avait plein d'autres projets qui n'ont pas pu être réalisés, en particulier il était quand même fervent catholique, y compris à une époque où c'était pas exactement à la mode, et où il a tenté quand même de... C'est pour ça qu'on voit dans le site, effectivement, au-delà de cet univers antique, c'est ce décor antique qui permet de mettre un peu tout le monde d'accord, parce que ça évite les polémiques au moment, les polémiques un peu problématiques pendant et après la Révolution. Néanmoins, il réinstaure quand même à certains moments des références catholiques, et on voit bien que voilà, c'est en cela que le site est très intéressant, c'est-à-dire que il suit les soubresauts du 19e siècle en même temps que le décor.
Guillaume Mazot, vous souhaitiez compléter?
Oui, en 1815, il a publié une description des catacombes de Paris. D'ailleurs, c'est ce document-là qui souvent est à l'origine des traditions. C'est-à-dire qu'ils veulent dire, voilà, on aurait enterré beaucoup de cadavres des victimes de la fin de l'Ancien Régime, de la Révolution française. C'est probable, mais on est en train d'essayer de le documenter. Mais voilà, beaucoup de traditions sont nées de là. Et il faut rappeler aussi que c'est un contexte, en 1815, c'est la Restauration, le début de la Restauration, le retour des rois au pouvoir après la Révolution française, où il y a toute une forme de volonté d'expiation. La Révolution est vue comme une sorte de péché collectif dans lequel, et finalement, donc c'est en 1815 qu'on transfère les restes de Marie-Antoinette et de Louis XVI à la nécropole royale de Saint-Denis. Et le lieu dans les fosses communes dans lesquelles ils avaient été enterrés après leur décapitation devient quasiment au même moment, en tout cas c'est la décision qui est prise, la chapelle expiatoire qui aujourd'hui est rue Pasquier. Donc voilà, à la conciergerie, c'est la chapelle expiatoire de Marie-Antoinette dans son ancienne cellule. Voilà, on est dans ce contexte de rachat. Et donc il y a une dimension profondément mémorielle et religieuse aussi dans cette scénographie qu'on voit aujourd'hui.
En tout cas, par rapport à la mémoire des lieux, le point de départ du projet de restauration-conservation des catacombes de Paris, c'est l'effondrement d'un mur d'ossements en juin 2022. Et on continue d'en parler avec vous, Noémie Eliazor. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes rendue donc à 20 mètres sous terre pour assister aux travaux de restauration d'une hague.
Tout à fait. Dans les dédales des catacombes, j'ai rencontré Clotilde Prousse, conservatrice et restauratrice en archéologie, avec une équipe constituée de 2 maçons d'un genre particulier et de 4 manutentionnaires. Elle s'attelle à remonter ce mur d'ossement. La méthode utilisée pour le démontage et le remontage de ces murs d'ossement s'inspire de celle de l'édification des murs en pierre sèche. Ici, l'équipe mise sur un maillage d'os long et assez serré pour assurer une meilleure stabilité du mur. Crânes et tibias seront bientôt de nouveau alignés pour reformer cette hague.
Alors, en fait, une hague est inspirée, c'est un terme inspiré de l'univers des carriers qui a pour principe de monter un mur à partir de pierres sèches. Voilà, ça c'est une hague et donc les hagues ici sont réalisées avec des ossements humains. Donc ce sont des élévations plus ou moins importantes constituées essentiellement d'os longs et de crânes. Pour la majorité, et en arrière de ce qu'on appelle un vrac, c'est-à-dire une quantité plus ou moins importante d'ossements de différentes tailles placés derrière ces murs d'ossements. Donc l'objectif à l'origine était muséographique, donc de permettre aux Parisiens d'une part de visiter leurs morts, leurs défunts, et puis d'avoir ainsi également une forme de promenade méditative. Et c'était en quelque sorte le premier musée parisien, dans le sens où un lieu patrimonial et culturel que l'on visite.
Ce que je trouve frappant sur le site, c'est que les os ont l'air d'être rangés par type d'os.
Pour constituer un mur, il faut des os quand même assez solides. Donc les ossements qu'on va retrouver ici ont un peu tous sont de même nature, c'est-à-dire les os les plus longs du corps, essentiellement les fémurs et les tibias, mais également les humérus, qui vont constituer en quelque sorte les éléments de construction de ces murs. Et puis on peut apercevoir entre ces os longs des os de plus petit format qui servent à densifier la structure, et également des lignes de crâne, un objectif plutôt décoratif. Donc soit des lignes horizontales à différents niveaux du mur, au-dessus également, au niveau de, pour constituer une forme de frise. Et puis on peut trouver encore, ça et là, des décors, des formes de décors, des cœurs, des croix constituées avec les crânes. Bon nombre de hagues ici, donc de murs d'ossements, se déforment, voire s'effondrent. Et donc, nous avons commencé comme cela par la hague qui porte le numéro 116 l'année dernière. Donc, c'est la première hague qui a permis de mettre en place une méthode de remontage qui nous sert un petit peu de base. Donc, c'est une sorte de chantier pilote, comme on dit, qu'on a réalisé l'année dernière.
Et justement, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour cette restauration ?
La méthode est inspirée des murs en pierre sèche, tout simplement, ce qui était à l'origine la façon de faire ici aux catacombes. Donc l'important, c'est d'éviter d'utiliser des liants, c'est-à-dire ne pas rajouter de ciment ou autre forme de liant, ce qui a été le cas par le passé. Au siècle dernier, on voit qu'il y a sur certaines zones beaucoup de ciment qui a été utilisé pour consolider les murs, ce qui en fait était une erreur puisque ça les a fortement dégradés et déstabilisés, et voire effondrés. Donc là, le but, c'est vraiment de ne rajouter aucun élément exogène dans ces élévations et de se servir du principe du mur-poids où tous les éléments vont se tenir les uns aux autres, se soutenir ensemble dans une élévation assez dense. Et pour cela, nous avons le savoir-faire et l'expertise de 2 maçons muraillés pour vraiment réaliser un montage et puis peut-être réfléchir à des façons particulières d'agencer les ossements les uns par rapport aux autres, peut-être des solutions qu'on n'avait pas encore essayées, puisque c'est un unicum, c'est-à-dire il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de retour d'expérience, il n'y a pas de documentation qui a été réalisée sur les anciens montages.
Celle-ci, et récupère celle-là. Il suffit peut-être de sortir un peu les... En fait, il faut faire un jeu.
Même les miennes encore les sortir, je pense.
Tu rentres les tiens. Et moi, tu les sors et tu les tu fais un entre-deux.
Moi, je pense qu'il y a tout à ressortir. À partir de là, il y a tout à ressortir, je pense. Ah ouais. Regarde.
Alors, moi, je suis Loïc Dolé. Je suis maçon du bâti ancien. Et je suis en train de remonter une vague.
Vous avez l'habitude de travailler avec des pierres. Et là, cette fois-ci, vous travaillez avec des ossements.
Exactement. D'habitude, je travaille avec toutes sortes de matériaux dans le bâti ancien, du plâtre, du calcaire, du granit, du silex. On pourrait faire toute la liste, ça serait un petit peu long. Mais là, en effet, c'est plutôt des tibias, des fémurs, des humérus, des crânes, des hanches et des maxillaires.
Comment vous abordez cette différence de matière première ?
Eh bah, bien, tout est dans l'équilibre, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a mis de côté l'aspect déontologique de l'intervention et qu'on a une approche, disons, scientifique, un petit peu, un regard qui se détache, eh bien, on prend la matière comme elle est. Et puis, donc, on est sur une matière assez longue, finalement. Donc, c'est vachement intéressant en termes de stabilité. L'ossement a vraiment cette capacité à se caler l'un avec l'autre qui est assez surprenante. Et puis, bah, on avance. On a cette fameuse ligne de pierre en bas qui permet d'avoir une rupture capillaire, certes, mais surtout une assise bien droite pour commencer l'ossement, enfin le mur, la hague. Et puis ensuite, on va équilibrer les os les uns avec les autres. Et en fait, ça se fait plus ou moins comme un mur en pierre. On commence avec des gros, on complète avec des moyens, on finit avec des petits. Et le corps humain est très très bien organisé pour ça. On a toute la matière à disposition pour équilibrer la construction.
Merci Noémie Eliazor. Philippe Charrier, je vous voyais sourire à la fin de ce reportage.
Oui, comme quoi les corps humains sont vraiment utiles à mille et une choses. Non, en fait, moi j'ai passé une partie de mon enfance à Sanary à Bandol dans le sud de la France, et là-bas il y a des murs de restanques, des murs en pierre sèche, et en fait c'est exactement le même type de construction qu'il y a dans les catacombes de Paris, sauf que c'est pas de la pierre, c'est de l'os, mais c'est quelque chose qui n'est quasiment plus organique et de plus en plus minéral, donc il y a une sorte de logique. Tout ceci se tasse quand même au fur et à mesure du temps, c'est pour ça que ce travail est un travail qu'il faut refaire en permanence. Ça se tasse, ça se déforme, il y a une pression qui est à la fois verticale mais également une pression horizontale qui va vers les galeries de circulation et qui du coup fait tomber parfois les hagues là où d'habitude on chemine. Et normalement les hagues montaient jusqu'au plafond, jusqu'au haut de chaque galerie. Et on voit déjà maintenant dans toutes ces hagues qui quasiment toutes se sont tassées, on voit le plafond, on voit la hague postérieure que normalement on ne doit pas voir. Donc il faut bien avoir une vision, alors non pas à l'échelle d'une vie, mais à l'échelle de plusieurs générations, une vision dynamique des catacombes. C'est quelque chose qui paradoxalement vit, dans le sens où ça se tasse, ça se déforme, comme notre corps à nous, et comme notre squelette à nous.
Oui, c'est une matière organique. Je ne suis pas médecin, mais j'ai compris ça très vite. Effectivement, et donc, y a certaines précautions à prendre pour pouvoir les conserver correctement et encore une fois, dans l'espoir que ça dure le plus longtemps possible.
C'est ça, c'est qu'un crâne qui se casse, ça peut aller jusqu'à entraîner la chute d'un mur.
Absolument. Alors, pareil, je ne suis pas maçon, mais j'ai également appris effectivement que le déséquilibre du mur peut venir très vite à partir du moment où il y a une lacune, un trou dans ce mur. Et en effet, on avait l'habitude, dans le passé, d'installer la première ligne horizontale de crâne très très bas. Or, effectivement, quand la hague se tasse, que le poids pèse sur ces pauvres crânes qui sont donc creux, mais il n'est pas rare évidemment qu'ils éclatent. Et une fois qu'un certain nombre de crânes ont éclaté, ça risque d'entraîner l'intégralité du mur. D'où, parce qu'on réfléchit un petit peu du coup à ce qu'on fait, aujourd'hui, on a remonté de 80 cm la première ligne de crâne, de manière à éviter d'avoir une pression trop forte sur ceci.
Là, il y a eu la restauration de la Hague des Martyrs de septembre en 2023, la restauration des murs d'ossement des Capucins Saint-Honoré qui doit s'achever dans quelques jours. Est-ce qu'on a une idée du prochain site de restauration prévu pour 2025?
Oui, tout à fait. Alors je ne me souviens plus du nom de la Hague en question, parce que nous on l'appelle la Hague au filet vert, ce qui est un nom qui n'a rien d'historique
du tout. C'est simplement qu'elle est, ouais, elle est protégée par des filets verts depuis plusieurs années, puisque donc elle est extrêmement ventrue. Autre terme technique, mais assez illustratif. Donc la hague est sur le point de s'effondrer, donc des filets de protection ont été mis. Il se trouve qu'ils sont de couleur verte, ce qui n'est pas du meilleur goût. Voilà. Et donc cette hague, je crois que ça, c'est un transfert d'ossement de Paris de 1804, il me semble. Et elle est tout à fait passionnante parce qu'il va falloir, en démonter un bon peu pour pouvoir curer le ciel de carrière. Le ciel de carrière, c'est le plafond de pierre qui a une petite tendance à s'écailler. Donc, il va falloir le purger. Et cette hague a la particularité d'avoir un vrac, comme disait Clotilde tout à l'heure, c'est-à-dire un tas d'ossements long de 11 mètres, ce qui en fait la hague la plus profonde du site, même si on ne sait pas si c'est tout à fait uniforme et s'il y a des ossements partout, mais ça fait un effet absolument, absolument incroyable, et j'espère qu'on pourra la montrer au public, puisque toutes ces rénovations et toutes ces restaurations se font en présence du public, ce qui est très intéressant pour les uns et les autres, car il y a évidemment un dialogue qui s'instaure sur comment on fait, y compris déontologiquement parlant, ce qui est évidemment un enjeu.
En quoi consiste l'étude scientifique que vous menez, Philippe Charlier? Comment vient-elle s'inscrire au sein du programme de rénovation? Et quelles sont les méthodes scientifiques que vous allez employer? Restez avec nous. De Mr. Croc en direct sur France Culture, car nous parlons des catacombes de Paris et du programme de recherche qui est en cours. On en parle avec Philippe Charlier, médecin, archéologue et anthropologue, directeur du laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie de l'Université Versailles Saint-Quentin-Yvelines, Isabelle Knafou, administratrice des catacombes de Paris, Guillaume Mazot, historien, maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du conseil scientifique des catacombes. On vient de voir que les catacombes constituent un véritable terrain de recherche encore totalement inexplorée, une mine d'or, ou d'os plus exactement, qui se cache sous les pieds des Parisiens. Philippe Charlier, vous avez commencé, le programme de recherche que vous avez lancé a commencé en 2023, en même temps que le programme de restauration des catacombes. Vous avez commencé avec la Hague 121. Pourquoi ? Pourquoi ici ?
Alors c'était une hague qui était assez intéressante. D'abord, elle s'était effondrée, elle n'avait encore jamais été ni remontée, ni restaurée. Et elle était dans un endroit qui était une sorte de diverticule, si je peux utiliser ce terme médical. En tout cas, hors des sentiers des visiteurs. Donc, entre guillemets, on était tranquille parce que nous, on allait avoir une chaîne opératoire un tout petit peu plus longue et un tout petit peu plus complexe que celle du remontage. Parce qu'il faut finir de démonter, il faut classer, il faut examiner, il faut photographier, il faut mesurer, il faut faire du diagnostic. Il faut classer à nouveau et re-ranger, et ensuite, libre au remonteur, entre guillemets, propre aux catacombes, de finir la restauration après notre travail. Donc c'est une longue chaîne opératoire. L'endroit est hyper humide en plus, pour tout vous dire, il pleut. Certains jours, on travaille avec des parapluies, ce qui est assez paradoxal sous terre. Mais l'état de conservation des ossements est quand même excellent. Donc c'était un très bon choix qui nous avait été proposé par Isabelle, et on ne regrette pas du tout. C'est un endroit où on a a déjà mis en évidence énormément de pathologies pour lesquelles on a un sexe ratio qui est à peu près équilibré, donc autant d'hommes que de femmes à quelques pourcentages près. Malheureusement, pas assez d'enfants, si je peux me permettre, évidemment. Vous comprenez le contexte archéologique, hein, n'imaginez rien d'horrible, bien sûr, mais on aime bien, quand on travaille, avoir une représentation la plus homogène et la plus réaliste des populations du passé, là. Comme je le disais précédemment, c'est biaisé, mais énormément de pathologies, pathologies infectieuses, pathologies tumorales, pathologies traumatiques, pathologies malformatives, pathologies carentielles également, beaucoup de rachitisme, ostéomalacie, donc carence en vitamine D, des signes aussi de ce qu'on appelle les actions anthropiques, c'est-à-dire des actions menées par l'homme, visibles sur le squelette, à commencer par la chirurgie, trépanation, amputation, beaucoup d'amputations. Et quelque chose qui, je pense, devrait intéresser Guillaume Mazot, c'est le fait que certains membres amputés, donc les fragments distaux, ceux qui étaient pathologiques et qui ont été sectionnés et donc retirés d'un patient dont on suspecte qu'il a quand même survécu assez longtemps, eh bien ces membres ont été ensuite déposés dans des cimetières et se sont retrouvés ensuite déposés secondairement dans les catacombes. Ce qui, de façon indirecte, nous renseigne énormément sur le statut de ces apathies, si je peux dire, de ces fragments cadavériques. Alors, pas cadavériques, fragments de corps, mais le reste n'est pas encore un cadavre, c'est encore un patient sur pattes, si je peux dire. Et voilà, c'est quelque chose sur le plan, on va dire, religieux, métaphysique ou anthropologique, qui est une information complémentaire de ce qu'on ne savait pas encore pour ces périodes anciennes, qui s'échelonne principalement, vu la technique opératoire, entre le XVIe jusqu'à toute fin du XVIIIe siècle. On a des corps qui ont été autopsiés aussi, d'autres qui ont été embaumés. On a énormément de pathologies, puis d'autres qui sont très très peu présentes. On n'a quasiment pas de caries.
Comment ça s'explique, ça?
Probablement pour des
raisons... Pourquoi pas de caries?
Alors, il n'y a pas une mutation ou autre chose. Non, il y a très peu, probablement, de sucre rapide à cette période-là. Une alimentation qui use beaucoup plus les dents plutôt qu'elle ne favorise la multiplication des bactéries qui sont à l'origine des caries. Donc, pour des raisons vraisemblablement alimentaires, eh bien, on a très très peu de caries. Ce qu'on suspectait déjà par d'autres nécropoles périurbaines, et ce qui semble se confirmer par cette accumulation, ce mélange, cette synthèse, si on peut dire, de quasiment toutes les nécropoles intramuros de Paris avant le 18e.
Pas de caries, mais on peut aussi, Philippe Charlier, analyser le tartre dentaire.
Ça, j'adore. Le tartre dentaire est hyper intéressant. Le tartre dentaire, c'est cette précipitation de la salive mélangée avec les aliments qui sont rentrés dans la bouche, avec également, si vous avez le nez bouché et que vous vous frottez, comme je le fais là devant le micro, le vêtement, eh bien, ça va mettre en suspension dans l'air des fibres textiles et vous respirez par la bouche, ça va venir mettre de la bouche et du coup, ça va se fixer sur le tartre dentaire. Pareil pour les pollens aussi, etc. Donc, c'est vraiment une sorte de conservatoire de l'environnement immédiat d'un individu qui va précipiter et qu'on va pouvoir examiner au microscope. On fait également des dosages toxicologiques et élémentaires pour déterminer le degré de contamination par des éléments, y compris, vous l'avez compris, avant la révolution industrielle. Tous ces ossements sont antérieurs à la révolution industrielle. Et malgré tout, il semble qu'on retrouve déjà du plomb, du mercure, de l'arsenic, de l'antimoine. Donc on est dans des expositions à des polluants qui sont antérieures à la période à laquelle on s'attend à les trouver.
Oui, c'est-à-dire que là, avec tous ces ossements, ça nous permet d'avoir plus d'informations sur les maladies sur 1000 ans d'occupation du territoire parisien.
Oui, quasiment 1000 ans, en effet. Et puis également, on voit l'apparition de certaines maladies, comme la tuberculose, comme la lèpre, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. La syphilis, on a pas mal de cas de syphilis, notamment à des stades vraiment très, très évolués, où la calotte crânienne est entièrement grignotée. Et donc l'individu, il faut l'imaginer que non seulement il y a une volumineuse ulcération au niveau de la voûte crânienne, mais également un état de démence totale qui va finir par aboutir à une paralysie et à un décès. Donc on a des cas, entre guillemets, historiques, doublement, hein, vous comprenez, d'évolution d'abord de la maladie et puis ensuite par leur ancienneté. On a également des malformations extrêmement importantes qui nous signalent que l'individu a été pris en charge par la communauté. Et vous comprenez que pour chacun de ces squelettes, comme extérieurement on ne peut pas en connaître la datation, on est obligé de faire des micro-prélèvements pour faire une datation au carbone 14 et pour déterminer exactement la période à laquelle correspond tel ossement dont la pathologie est particulièrement intéressante.
Par rapport à ces pathologies, vous parlez en effet de la syphilis qui ronge le crâne au niveau du front. Vous allez faire aussi des études ADN en microbiologie, toujours par exemple pour cette histoire de syphilis?
Oui, alors l'ADN va être intéressant pour deux choses. D'abord, les seuls os extérieurement sur lesquels on peut faire un diagnostic de sexe, c'est le bassin. c'est-à-dire les os coxaux. Sur un crâne, c'est hasardeux. Sur des os longs, c'est absolument impensable. Donc, quand on a un ossement pathologique et quand on veut connaître le sexe de l'individu qui était porteur de cette pathologie, qu'elle soit infectieuse, tumorale ou autre, eh bien oui, il faut qu'on fasse une extraction d'ADN propre à l'individu. Ensuite, quand on a des maladies qu'on suspecte d'être infectieuses, il faut en effet qu'on fasse d'autres examens pour l'ADN, cette fois-ci de l'agent infectieux lui-même. Virus, bactéries, parasites, champignons, les quatre types d'agents infectieux qu'on peut éventuellement identifier. Et là, ça nous permet, c'est pour ça qu'on est vraiment aux confins entre la médecine légale d'un côté, mais également la santé publique de l'autre, ça nous permet de voir comment vont évoluer au fur et à mesure du temps les maladies. Parce que retrouver une syphilis du 16e siècle, par exemple, une autre du 19e siècle, et comparer avec nos syphilis actuelles, parce que je peux vous dire qu'il y en a encore beaucoup, quand j'étais médecin de prison il y a quelques années, j'en voyais quasiment une par semaine. Bref, la syphilis n'a pas disparu, mais ça permet de voir la micro-évolution de ces agents infectieux d'un siècle à l'autre. Et donc de mettre en évidence des voies évolutives des pathologies qui vont permettre aux infectiologues de la recherche clinique d'avoir un petit temps d'avance et de se dire « Ok, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans ou 100 ans, voilà à quoi va potentiellement ressembler cette maladie. Voici en tout cas les voies de mutation vers lesquelles s'oriente tel ou tel agent pathogène. »
Guillaume Mazot, on l'a évoqué en première partie d'émission, la création des catacombes coïncide avec la Révolution française. On le voit là avec cet exemple des membres amputés dans l'ossuaire des catacombes. Comment ces endroits-là étaient utilisés pendant la Révolution? Qu'est-ce que les catacombes, ces ossements, nous apprennent des pratiques funéraires d'antan?
Alors, en fait, on ne sait pas trop. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la Révolution française. Ce qui est sûr, c'est que je rebondis sur la question du sucre. C'est que ces programmes de recherche que mène Philippe Charrier ou les miens en termes d'histoire, ça permet de faire l'histoire sociale de ces gens hein, qui ont été inhumés. Et il faut savoir que c'est à la fin du XVIIIe siècle que vraiment explose la consommation de sucre, notamment liée au commerce colonial. Hein. Le sucre qui vient de Saint-Domingue, etc., dans les classes populaires. Et s'il n'y a pas de carie, c'est probablement parce que justement, on a arrêté d'inhumer dans ces cimetières-là à ce moment-là et qu'on les transfère aux catacombes. On l'aurait fait, il y aurait eu quelques dizaines d'années de décalage, on aurait eu des dents absolument en mauvais état. Mais alors, sur la Révolution française, la grande tradition veut qu'il y ait beaucoup de restes humains qui viennent de la guillotine, des violences commises pendant la Révolution française, des violences politiques en particulier. Alors ce dont on se doute, hein, ce qui est pratiquement avéré, hein, c'est que oui, par exemple, les corps de Robespierre, de Danton, de Camille Desmoulins, liés au transfert du cimetière des Érancy, c'est un cimetière qui était aujourd'hui près du parc Monceau actuel, hein. Et quand il a été supprimé, on a transféré les ossements, et dans cette tradition qui vient du transfert des saints innocents, hein, bah on continue à les transférer là. Mais ça dit quelque chose en plus, c'est aussi qu'on a envie de voir enfoui, en fait, hein, ces restes-là. C'est quelque chose qu'on n'assume pas et qui dit quelque chose de l'histoire politique. Mais c'est aussi, par exemple, les catacombes ont aussi accueilli les derniers massacres, je dirais, de la monarchie absolue. Et je pense en particulier au grand soulèvement qu'il y a eu dans le faubourg Saint-Antoine de plusieurs centaines d'ouvriers contre la manufacture de papier peint de quelqu'un qui s'appelait Jean-Baptiste Réveillon, qui était très riche. Et là, il y a plus de 300 morts, probablement, même si c'est assez difficile à savoir. Et que là je commence à documenter petit à petit et retrouver les archives. Alors, comme on l'a dit au début, elles sont très dispersées. D'abord parce que les archives de l'Inspection Générale des Carrières ont brûlé comme d'autres hein, à la Commune de Paris en 1871, mais c'est aussi parce que quand il y a un lieu qui est un petit peu enfoui, qui convoque un petit peu une forme de déni collectif, bah, par définition, il n'y a pas de fond d'archives qui est très clair. Donc il faut tricher. Et donc, ce que je sais, c'est qu'on en a transféré oui, pas mal de ces gens qui sont morts, hein, alors quelques dizaines, quelques centaines, on ne sait pas trop, dans ce qu'on appelait le cimetière de Montrouge, et on les a transférés là pour que les cadavres puissent être d'abord pas trop vus. On est une semaine avant les états généraux, donc c'est très compliqué de commettre un massacre comme ça risque de déstabiliser l'équilibre que Louis XVI voulait installer, l'équilibre politique, le nouvel équilibre politique, et puis aussi pour que, donc on ne veut pas le voir, mais aussi pour qu'il puisse être reconnu par les proches. Et là, on est dans la tradition de ce qu'on appelait la morgue du Châtelet, dans la basse-zone du Châtelet, où on, voilà, les, par exemple, les cadavres qui étaient repêchés dans la Seine, parce que beaucoup de gens se noyaient à l'époque, ben, on venait là les voir. Voilà, ça dit aussi tout un rapport, alors, à la fois à l'histoire politique, ce lieu, hein, vous avez compris, les catacombes, à l'histoire de la Révolution française et à ses violences, mais aussi à l'histoire de la monarchie absolue et de ses violences, et puis du côté un petit peu enfoui de toute cette histoire.
Vous évoquez quelques célébrités, Isabelle Gnafou, oui, Robespierre, on l'a entendu, mais il y a aussi Molière.
Ben, il paraît. Il paraît que Molière n'est pas au Père-Lachaise. En fait, cette dialectique entre les personnalités, entre guillemets, et j'allais dire le commun des mortels, c'est-à-dire l'ensemble des Parisiens qui sont inhumés aux catacombes, est très intéressante parce que c'est aussi pour certains observateurs, en particulier dans la foulée de la Révolution française, un temple de l'égalité, l'égalité rêvée entre les hommes, ou en tout cas la prise de conscience évidente que ben, nous allons tous finir ainsi et que nous nous ressemblons tous dans la mort. Donc cette égalité des hommes face à la mort, elle est visible aux catacombes et elle est très émouvante. Et donc finalement, imaginez que ça et là, peut-être, il y a un membre de Molière, de Lavoisier ou de Danton dans un des murs d'ossements, ça rajoute un peu de mystère et de au lieu. Mais ce qui compte, c'est l'immensité des anonymes.
Par ailleurs, Philippe Charlier, il n'y a pas que des Parisiens ni des ancêtres de Parisiens qui sont là-dessous.
Non, on s'intéresse aussi aux migrations de population. Les premières études semblent montrer qu'il n'y a pas que des squelettes de Parisiens, en tout cas, y compris même de métropolitains. On se pose la question, en fonction de la morphologie de certains ossements et notamment de certains crânes, s'il n'y aurait pas des individus d'origine extra-européenne. Et donc, ça fera partie, notamment, je pense, à l'Afrique subsaharienne ou au territoire afro-caribéen. Il est possible qu'il y ait donc soit des voyageurs, soit des esclaves, en tout cas des individus, des défunts qui à l'époque étaient bien vivants et qui venaient du lointain. Et c'est tout l'intérêt également des études génétiques.
Mais on arrive vers la fin de cette discussion, mais Philippe Charlier, les méthodes scientifiques que vous allez employer sur place, c'est vraiment de l'étude de l'ossement in situ. Vous allez passer pas mal de temps, en fait, tout à l'heure.
Oui, Isabelle Gnafou a dit un mot extrêmement important tout à l'heure et je voudrais vraiment le relever, c'est le mot de déontologie. C'est un lieu qui est une nécropole immense, collective en l'occurrence, avec des ossements mélangés, mais on doit un respect absolu à ces patients du passé. Moi, je les appelle des patients parce que je suis médecin. Donc, ce sont mes patients du passé, en l'occurrence, patients partagés. Mais ils dorment systématiquement tous les soirs là-bas. Si jamais un examen doit être réalisé, le maximum se fait sur place, in situ, sauf évidemment d'infimes prélèvements, écouvillons moins infracentimétriques. Si jamais un jour on doit réaliser un scanner, par exemple, eh bien on ira dans un hôpital de la science publique des hôpitaux de Paris et puis il reviendra une heure plus tard. Donc voilà, c'est leur nouvelle et définitive maison.
Eh bien, merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci beaucoup. Tout de suite, un tout autre sujet, on retrouve Alexandra Delbo et la chronique avec Science.
Les stérilets hormonaux augmentent-ils le risque de cancer du sein? On parle aussi de dispositifs intra-utérins, les DIU. Le terme stérilet induit d'ailleurs un petit peu en erreur, car il ne s'agit pas de stérilité bien sûr, mais de contraception, et on distingue deux types différents. Il y a les DIU au cuivre et ceux à hormones. Alors pour les deux, l'encombrement spatial, c'est-à-dire la place qu'ils occupent, limite mécaniquement l'implantation et modifie l'environnement endo-utérin. L'autre action tient à leur composition. Le cuivre a un effet spermicide, alors que les DIU hormonaux fonctionnent comme la pilule contraceptive, donc en mimant les hormones naturelles, mais à une échelle locale. Ces moyens de contraception ont une efficacité très importante, mais parce qu'ils utilisent des hormones, ils se posent la question du risque et surtout du sur-risque de cancer du sein, un lien déjà mis en évidence pour la pilule contraceptive. Nathalie Chabert-Buffet est endocrinologue spécialisée dans la médecine de la reproduction et responsable du Centre de suivi des femmes à haut risque de cancer à l'hôpital Tenon à Paris, de l'APHP et de Sorbonne Université.
Alors, on sait depuis longtemps, effectivement, et toujours sur la base de suivi de cohorts, on connaît le sur-risque très modéré de cancer du sein chez les utilisatrices de contraception hormonale et notamment estroprogestative. On sait aussi que ce risque augmente avec la durée et qu'il disparaît rapidement après l'arrêt des contraceptifs. Donc le sur-risque, vous avez un risque absolu qui est dans l'absolu, d'ici la fin de ma vie, j'ai un risque de 11% de développer un cancer du sein si je fais partie de la population générale. Et le sur-risque ou le risque relatif, c'est par combien je multiplie ce risque que je viens de définir quand je suis exposée à, par exemple, l'utilisation des contraceptifs hormonaux. Donc ce sur-risque, il peut s'exprimer sous la forme d'un chiffre. Par exemple, si je double mon risque, on parle de risque relatif à 2. Ou il peut s'exprimer en pourcent. Et par exemple, l'augmentation du risque de cancer du sein chez l'utilisatrice de contraceptifs estroprogestatifs en cours, c'est quelque part autour de 20%. Donc ça fait un risque à 1,2.
Les DIU aux hormones sont-ils associés à un sur-risque de cancer du sein comme l'est la pilule? C'est une question qui ne date pas d'hier, seulement les études aboutissaient jusqu'à présent à des résultats contradictoires et donc pour trancher, il faut suivre davantage de femmes utilisatrices de ces DIU, des données pas facilement accessibles, mais dans certains pays comme le Danemark, le dossier médical de chaque citoyen et citoyenne est automatiquement inscrit dans une base de données. On connaît votre mode de vie, les médicaments que vous prenez et votre état de santé, c'est extrêmement pratique pour pouvoir mener de larges études rétrospectives, notamment sur les moyens de contraception. C'est ce qu'on fait, non pas une, mais deux études sorties récemment avec des femmes utilisatrices de DIU au lévonorgestrel, un progestérone de synthèse. La première, publiée dans JAMA, a été menée au Danemark, donc. La seconde, parue dans le journal américain de gynécologie obstétrique, a été réalisée en Suède. 80 000 femmes d'un côté, 500 000 de l'autre. Résultat, il y a bien un léger sur-risque de développer un cancer du sein avec ces stérilés hormonaux.
Avec un risque relatif, donc celui dont j'ai parlé tout à l'heure, une augmentation de risque de environ 13%, ce qui donne un risque à 1,13. Donc c'est inférieur à ce qu'on observe par exemple avec certains des contraceptifs estroprogestatifs. Le deuxième article, donc suédois, retrouve la même augmentation de risque modérée. Il est un peu plus précis et donc il la stratifie aussi par âge avec un risque dans la période de pré-ménopause des femmes à la quarantaine. Donc ces deux papiers convergents ont tendance quand même à montrer une augmentation très modérée, hein, 1,13, c'est 13%. Donc ça correspond dans le papier danois à 14 cancers du sein en plus pour 10 000 femmes utilisatrices, ce qui est très très peu. Et pour les Suédois, c'est un chiffre un peu plus important, c'est une quarantaine pour 10 000 utilisatrices. Alors c'est toujours trop évidemment, mais ça reste extrêmement modéré.
Comme pour tout médicament, il faut mettre cela en perspective de la balance bénéfice-risque de chaque patiente. Une patiente jeune n'a de fait que peu de chances d'avoir un cancer du sein, donc le sur-risque n'a que peu d'impact. Parce que si vous multipliez par quasi zéro, ça donne toujours quasi zéro. Ensuite, certaines patientes ont recours au DIU à base de lévonorgestrel pour d'autres raisons que la contraception, comme pour limiter les saignements de certaines formes d'endométriose. Et donc, mécaniquement ici, le bénéfice pour la qualité de vie de la patiente augmente. Ce léger sur-risque de cancer du sein est donc une information importante qui doit être communiquée à toutes les femmes et à évaluer en fonction de leur balance bénéfice-risque. C'est pour l'instant le seul dispositif intra-utérin pour lequel il y a un signal d'alarme. Reste à voir si d'autres DIU hormonaux présentent les mêmes sur-risques ou si des stérilés avec un dosage plus faible permettraient de le faire diminuer.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sonsini, Alexandre Morales, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Élise Leu. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter ou sur Blue Sky @ Science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.